Merci d'écouter le programme de Studio Kalangou. Il vient d'être à 17h. Le journal de ce mercredi 1er février 2023, c'est avec Nafissa Domsirfou. Au sommaire, l'équipe nationale de football, le MENA Aprim, a perdu hier son match en demi-finale du CHAN face à l'Algérie, pays organisateur, à suivre la réaction de quelques supporters ici à Niamey. Un projet de conservation des écrits du Niger en arabe et ajami a été lancé ce matin à Niamey. Le recteur de l'université de Niamey nous en dit plus dans ce journal. Dans le magazine de ce jour, nous verrons comment l'insécurité impacte l'économie du département de Bankilari. Bonsoir à tous et bienvenue. Hier mardi, l'équipe nationale de football, le MENA Aprim du Niger, a perdu son match des demi-finales face au Fennec d'Algérie sur un score de 5-0. Les poulains de l'entraîneur Haroun Abdullah joueront vendredi 3 février le match de classement contre le Madagascar, l'autre équipe éliminée par le Sénégal. Salamat Kadri a recueilli ce matin les appréciations de quelques supporters nigériens que je vous propose d'écouter.
Ce qui avait un lâchage. Donc, au niveau des joueurs, il y a la fatigue et il y a les cadres dans lesquels ils ont joué, notamment donc les pays d'accueil, donc les pays hôtes. Il y a le public, on parle de 40 000 personnes, c'était à guichet fermé. La pelouse aussi a été gérée comme voulaient les Algériens. Tout cela a permis donc à cette équipe algérienne donc, de battre le MENA par un score lourd, 5-0. On ne doit pas baisser la garde parce qu'on joue le vendredi prochain la petite demi-finale qui est la troisième place.
Moi, je dis qu'on s'est laissé faire et on est surpris par notre impression que ce sera l'Algérie qui est sous pression. On n'a pas donné le meilleur de nous au point de vue mental. Mais sinon, on pouvait gagner ce match. Mais on s'est dit qu'on n'a pas de pression, c'est l'Algérie qui vend son public. Donc, c'est ce qui nous a fait induire en erreur parce qu'on se fait trop confiance. Mais nous devons nous dire que tout le peuple nigérien est derrière nous. C'est une pression. Tout le monde est euphorique. De Niamey à Zandar, passant par différents autres là, tout le monde était unanime que nous allons gagner ce match.
Je vous le disais dans les titres, lancement ce matin à Niamey du projet de conservation des manuscrits du Niger par le département des manuscrits arabes et ajami de l'université Abdou Moumouni de Niamey en collaboration avec la fondation Gerda Henkel. Selon professeur Mamadou Saïdou, recteur de l'université de Niamey, ce projet vise à transcrire les écrits du Niger en arabe et ajami, de les conserver mais aussi de les valoriser. On l'écoute.
Il s'agit de développer et de préserver les manuscrits ici au Niger. L'importance des manuscrits ajami n'est plus à démontrer. Je pense que c'est un pas important de notre histoire. C'est la transcription en langue locale en utilisant l'alphabet arabe. Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de nos traditions, beaucoup de nos connaissances, beaucoup de nos cultures s'y trouvent donc dans ce document. Donc il est important de trouver un mécanisme et après le papier qui a eu à booster le développement de l'écriture dans notre continent, maintenant nous sommes à l'ère de la numérisation. Et donc je pense qu'on peut saisir cette opportunité-là pour pouvoir mieux préserver et valoriser nos documents. Donc après le travail de nettoyage, d'inventaire, de catalogage et de numérisation, j'encourage les chercheurs à trouver les mécanismes de valoriser ces documents-là.
Des propos recueillis par Rafika Taher. Ce matin, vers 7h30, un incendie s'est produit au quartier d'Ilerram 2 de Gingimi. Malheureusement, les flammes ont ravagé plusieurs maisons et causé beaucoup de dégâts matériels, des animaux calcinés, de l'argent et plusieurs autres biens partis en fumée. Écoutons le témoignage de deux victimes, Hajara et Maman Bounia, recueillies par Abdoulaye Mena.
Tout est parti dans cet incendie. Il ne nous reste plus rien à part ces habits que nous portons. La maison et les vivres, tout a brûlé, même nos économies. Moi, j'étais un peu souffrante. J'étais couchée et j'ai entendu des cris. Quand je suis sortie, le hangar brûlait déjà. C'est de la paillote, elle est complètement calcinée. C'est ce que Dieu a décidé pour nous. Beaucoup de maisons sont parties en fumée.
Par rapport à cet incendie, nous ne pouvons que nous remettre à Dieu. C'était inévitable. Le feu s'est déclaré au moment où il ventait. Nous avons tenté de le maîtriser, mais il s'est aggravé. Nous étions obligés de sortir. Toutes nos habitations sont parties en fumée. Parlant des dégâts matériels, rien n'a pu être sauvé. Il y a des gens qui me donnent leur argent pour garder. Vraiment, je ne sais pas le montant. Je lance un appel aux bonnes volontés qu'elles nous assistent dans cette situation. Présentement, nous sommes tous dehors, sans couverture, absolument rien.
Retour ici à Niamey où s'est tenu le lundi et mardi un forum national sur l'organisation du Hajj au Niger, organisé par le cabinet du Premier ministre en collaboration avec le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Plusieurs recommandations ont été adoptées par les participants, selon Mohassan Mani, responsable de la Fédération nigérienne des associations et syndicats pour le Hajj et la Umrah. Il est interrogé par Adam Dawaki.
À l'unanimité, nous avons insisté sur le transport. Nous avons dit vraiment à l'État de désigner très rapidement la compagnie reconnue par l'autorité saoudienne pour convoyer vraiment les pèlerins, donc pour affréter les avions, pour pouvoir dégager le prix du Hajj, amener les pèlerins à temps et le ramener à temps. La seconde recommandation, c'est en ce qui concerne l'encadrement. Parce que l'encadrement, c'est accompagner le pèlerin depuis son inscription jusqu'au retour du Hajj. Donc, à l'hébergement, lui assurer vraiment une bonne restauration. Et c'est un truc qui n'engage pas le Koho, mais nous souhaiterons que le Koho veille là-dessus. Nous avons besoin vraiment à ce que le Koho puisse vraiment accélérer pour l'organisation de Hajj 2023 la structure de prix. Il faut qu'il y ait une fixation des prix pour que les pèlerins puissent s'y prendre à temps.
La suite de ce journal, la situation dans le parc AW s'est dégradée du fait de la présence des djihadistes selon une étude menée par International Crisis Group. Le rapport a été présenté hier à Niamey en présence des différents acteurs qui interviennent dans le parc. Dr Ibrahim Yahya, analyste principal à International Crisis Group, est au micro de Asman Shina.
Les djihadistes s'y sont installés. Leur installation crée beaucoup de défis. Ils utilisent les parcs comme une sorte de quartier général à travers lesquels ils organisent leurs activités. Ils se projettent sur d'autres territoires. Ils essaient de transformer le comportement des sociétés locales pour les amener à se conformer à leur dictat, à leur interprétation de la religion. Et donc, les parcs aujourd'hui constituent un défi majeur de sécurité pour tous ces trois pays-là. Il y a des efforts qui sont menés par les États pour améliorer la sécurité, améliorer la conservation de la biodiversité et améliorer aussi la gestion et l'accès aux ressources naturelles autour du parc. Toutes sortes d'éléments qui contribuent à la montée de l'insécurité bien avant l'installation des djihadistes, mais aussi qui se sont exacerbés avec leur installation. Ce qu'on a discuté, c'est ce diagnostic-là de la situation autour du parc et surtout les mesures qui sont déjà en train d'être mises en œuvre, mais aussi ce qui reste à être fait pour mieux gérer cette question d'insécurité et rendre à notre parc toute sa réputation. Voilà.
À Difa également, les populations ont été sérieusement impactées par l'insécurité depuis 2015 et le débordement des eaux de la Komadougou-Yobé qui ont causé des inondations. Toutes les dispositions sont prises à l'heure actuelle pour la relance des activités socio-économiques après le retrait des eaux de la Komadougou, déclare le gouverneur de Difa. Smène Younous est au micro de Mokhtar Hamadou.
Les eaux de la Komadougou, à travers les inondations, sont venues compliquer encore davantage la situation en envahissant les champs, les aires de culture ont été inondées, les pâturages aussi. Maintenant, avec le retrait des eaux, les populations sont enclines à retourner pour pratiquer leurs activités connues, c'est-à-dire l'agriculture. Nous allons les amener à faire de la culture irriguée. C'est une zone extrêmement riche où on peut produire le poivron, on peut produire le maïs, on peut produire la canne à sucre. Aussi, avec la dernière visite que le chef d'état-major des forces armées nigériennes a effectuée au niveau du lac, il a quand même permis aujourd'hui, en sécurisant cette partie du lac là, qui est exploitée par nos pêcheurs vaquent librement à leurs activités. Aujourd'hui, quand vous allez à Difa, vous allez consommer le poisson frais en provenance du lac. Et je pense bien que d'autres actions vont être entreprises pour permettre à nos pêcheurs de pouvoir exploiter beaucoup plus de quantités de poissons.
Transparency International a publié hier à Berlin l'indice de perception de la corruption dans le monde. Pour cette année, le Niger a progressé d'un point. Sa moyenne est passée de 31 à 32 points. Une progression suite à une lutte commune contre la corruption au Niger, estime Maman Wada. Il est le président de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption. Il est interrogé par Alamine Ouachar.
Le Niger a progressé. Le Niger avait en 2021 31 points sur 100. Et l'IPC de 2022, le Niger à 32 points. Cela veut dire que le Niger a légèrement progressé. Il y a une volonté politique qui se manifeste, même si elle n'a pas atteint son paroxysme. Et c'est pour ça que nous avons demandé que cette tendance soit maintenue, qu'elle soit poursuivie pour éviter la régression. Donc, il faut renforcer la lutte, il faut renforcer les moyens de lutte, il faut renforcer les stratégies de lutte, il faut renforcer et aussi bien la prévention que la répression de la corruption. Parce que souvent, on se fie plus au rang qu'à la note. Or, chez nous, la note est plus importante. Mais cette année, on peut considérer que le Niger est arrivé 123e. Quand vous faites le calcul, vous allez le voir sur 180 pays. 180 pays classés dans le monde.
Autre aspect de ce journal, les femmes du village de Dodoria dans la commune rurale de Dogonkiria, département de Dogondouchi, ont des difficultés pour évacuer les femmes enceintes. Le village ne dispose pas d'une maternité et celle qui est à côté se trouve à plus de 10 km. Selon Akarabo, matrone du village, il arrive souvent que les femmes accouchent sur une charrette avant d'arriver à la maternité, d'où son cri de cœur à l'endroit des autorités. Elle est au micro de notre envoyé spécial, Mamanada.
On fait appel à moi tard dans la nuit pour amener une femme enceinte à la maternité. Elle accouche sur la route tard dans la nuit. Je prends le nouveau-né dans mes bras pour arriver à la maternité. Les femmes, souvent, l'accouchement les surprend la nuit. Donc, on est obligé de les transporter sur une charrette tirée par un âne pour aller dans la commune de Kiria, à 9 km et quelques. Et malheureusement, souvent, la délivrance se fait en cours de route. On a demandé plusieurs fois de l'aide pour ce problème, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. En tout cas, ici, dans notre village, on n'a pas de maternité. C'est à nous qu'on fait appel pour les accompagner. Quand elle accouche à la maison, avant, nous coupons le cordon, lavons le bébé sans problème. Mais ces dernières années, les accouchements se compliquent. On est obligé de les évacuer. C'est pourquoi on les conseille toujours d'aller aux consultations prénatales. On a été formés pour les sensibiliser.
Le syndicat de revendeurs de gaz Sinarège a soumis aux autorités une note par rapport à la situation de certains revendeurs de gaz butane qui ont des kiosques fermés depuis le mois de novembre. Souleymane Hassan, secrétaire chargé aux négociations du dit syndicat, explique au micro de Omar Hamma.
Ce prix-là qui fait l'objet de remous, sachant pertinemment aujourd'hui que ce soit les autorités eux-mêmes et que ce soit aussi les centres amplisseurs, tous sont conscients du fait que les revendeurs avec le prix en vigueur ils ne peuvent pas exercer. Malgré tout cela, les autorités tiennent mordicus à ce que les gens respectent ce prix-là. Le mois de janvier, ils ont fait une campagne de sensibilisation sur pratiquement tous les points. Ils se veulent musclés parce qu'ils sont accompagnés de personnel et des agents de force de l'ordre armé pour venir te dire qu'ils sont en train de te sensibiliser. D'après leur dire, passé le 29 janvier, maintenant c'est plutôt une campagne de répression qui peut aller de l'amende à la saisine de nos emballages avec lesquels nous travaillons et qui peut aller aussi jusqu'au pénal. Donc suite à cela, nous n'avons pas attendu cette date-là. Nous avons fait des démarches dans le sens d'avoir une solution, mais malheureusement, ces démarches-là n'ont pas abouti.
Le magazine de ce journal, le département de Bankilare a des frontières avec le Burkina Faso et le Mali, une situation qui l'expose souvent à des attaques d'hommes armés non identifiés. Cette situation d'insécurité a un impact sur l'économie du département, selon Haruna Alimane, conseiller élu. Il est interrogé par Youssouf Ilewat.
Les principales activités économiques de notre commune, nous avons en premier lieu l'agriculture. La seconde activité, nous avons l'élevage. La troisième est le commerce.
Monsieur Haruna, est-ce que vous pouvez nous parler des menaces qui pèsent sur ces activités économiques du département de Bankilare?
Les menaces qui pèsent sur ces activités sont diverses. La principale, c'est que c'est celle partagée par tout le monde, c'est la question sécuritaire. Au-delà de cette question sécuritaire, il faut noter que dans le département de Bankilare, l'inaccessibilité de certaines zones fait en sorte que la direction ou le département de l'agriculture n'arrive pas à faire des campagnes pour voir effectivement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait en sorte que la production ne donne pas. Ça, c'est un handicap qui est lié à l'insécurité. Il est de même pour l'élevage. Et la seconde, au niveau de l'élevage, aujourd'hui, un éleveur ne peut pas détenir plus de 10 têtes de vaches pour cause qu'il peut être enlevé à cause de ses biens. Donc ça handicape, ça menace l'évolution de cette activité. Quant au commerce, nous avons dans un premier temps la dégradation de la route qui a été amplifiée par l'arrêt systématique des motos dans notre commune, le manque de carburant, c'est-à-dire les stations qui ne fonctionnent plus pour cause d'insécurité. Tous ces facteurs conduisent effectivement à la cherté de la vie et freinent les petits commerces, les facteurs de la route, les carburants font en sorte qu'aujourd'hui, à l'intérieur de Bankilare, vous ne pouvez pas trouver de taxis. moto. La ville est totalement enclavée. Nous ne sommes pas connectés aux autres villes.
Comment promouvoir la résilience chez ces populations de Bankilaré?
Fin de ce journal. Merci de votre attention.